c'est sans doute ce que vient de me dire mon excellent ami.
Les amis de
mes
amis.
Je veux être entouré de mes amis.
Sont où tes amis? J'en vois pas d'amis ici.
T'es comme ça quand je voudrais voir la télé. Je viendrai chez mon pote Paul.
Ouais, on va faire des petites galettes. Je vais vous préparer des bonnes petites galettes.
Ici, on ne parle pas le gallois, la Boxia, on parle le chin. C'est ça, hein, le...
Attends, chin.
En fait, c'est Dorothée qui a fait à manger, vous allez voir.
Je veux trinquer, c'est galette. À la vôtre.
Vous savez qu'à chaque interview, on trinque, on va croire qu'on passe notre temps à boire.
Entendez-vous ce joli bruit de l'aluminium pour sortir les bonnes galettes que nous allons faire à ces deux jeunes hommes, très charmants d'ailleurs, très cool.
Oui, parce que
vous arrivez en retard,
les amis de mes amis, ça a aussi l'avantage de manger à l'œil chez les gens, voilà.
Le sale.
Surtout, je voulais vous faire écouter ce que Gilles avait dit de vous et pourquoi on est là en fait ce soir.
Alors, l'ami suivant, pour moi, c'est sans hésitation Fred. Fred, de son métier, il fait les concerts avec un camion de frites, sandwich, tout ça. C'est un vrai rock'n'roll. C'est un rassembleur. Je le connais au bar, évidemment, la bicyclette. Hein. Je crois que c'est comme ça. Ah non, c'est un copain qui nous a invité à manger, il était chez lui. Il aime tout le monde.
C'est qui?
Bah, je sais pas.
Surtout pas,
faut aller voir Fred. La vache, où tu l'as dégoté ce cornichon là?
Alors
du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'être un rassembleur?
Ça après c'est un pote qui le dit, et j'en sais rien moi. Rassembleur, il entend peut-être parler par là.
Bah si, tu vois bien ce que c'est.
Oui mais, je vois bien ce que c'est, mais après rassembleur, ça peut être... Bah c'est vrai qu'après moi j'ai connu Gilles, mais Gilles connaissait quand même Carl et Anne. Après nous, c'est vrai qu'on l'a fait connaître... Toi, tu connaissais Gilles?
Non.
Hein? Voilà, et c'est vrai qu'après, s'il appelle ça rassembleur, comme on a connu Julien et Gaël, tiens, que vous avez rencontré aussi, hein, le tailleur de pierre, c'est pour ça qu'on t'a demandé ce tailleur de pierre d'ailleurs. Et voilà, après, on a fait rencontrer tous ces gens-là par une soirée à la baraque ou quoi, mais c'est peut-être pour ça qu'il dit rassembleur, mais sinon. Moi, je me définirais pas comme rassembleur.
Mais alors, comment ça t'est venu, cette idée d'avoir un camion pour vendre des sandwichs et des frites et...
Bah, en fait, j'ai jamais aimé bosser pour un patron. Je bossais pour moi, je faisais marché, je vendais au début des fringues, après des crêpes et des gaufres.
Oh, j'en apprends, donc.
Pizza. Et en fait, lors d'un voyage en Afrique où on allait vendre des voitures en Afrique noire, tu vois, je rencontre un mec qui me dit qu'il fait des sandwichs sur les festivals et tout. Donc, on devient pote. Et au retour en France, moi je le suis sur les festivals avec ses sandwichs et moi je faisais les crêpes et les gaufres et j'ai vu que ça marchait mieux quand même les frites que les crêpes et les gaufres. C'était moins chiant. Donc du coup, voilà, un stand... des sauvettes à Paris.
Vous ne connaissiez pas avant.
On est bossé sur des manifestations et tout. Et puis voilà, tu sais, de fil en aiguille, après tu t'as grandi.
T'as commencé quand?
Je sais pas, une vingtaine d'années. J'ai dû commencer les merguez. Non, pas 10 ans, mais en 92 peut-être, j'ai dû commencer. 10 ans, ouais, j'avais 10 ans. Et tu rigoles, mais n'empêche que j'avais 20 ans. J'avais commencé à vendre des sandwichs avec mon père qui lui, c'était barré de chez Elf. Il était... il avait une bonne place, il était chef au service informatique chez Elf. Et puis, comme il avait une nana dans la boîte, ils ont fait comprendre que ce serait mieux s'il partait. Parce que... Et du coup, avec un gros chèque, il est parti et il a monté un camion. Enfin, il a acheté un camion aux frites. Et on s'est retrouvé à faire les 24 heures du Mans. Enfin, plein de plans, mais moi, je connaissais pas le boulot comme je le connais maintenant. Sinon, ça aurait été cool, quoi. Et du coup. J'ai dû faire 2-3 plans avec, 4-5 plans, mais on s'est planté, tu vois. Les 24 heures du Mans, on avait payé à l'époque, c'était 4000 francs l'emplacement, et sur 3 jours, on avait dû faire 3500 francs. Tu vois. La clé du succès, je ne vais pas le dire à l'antenne, parce que sinon, après, on aura plein de marchands, mais la clé du succès, c'est quand même le savoir-faire. Et le savoir-faire, en fait, tu l'acquiers comme dans tous les boulots, avec le temps. Et non, mais c'est vrai, hein. Je veux dire, après, il y a l'emplacement qui compte.
Faut
venir bosser. Faut venir, voilà, tiens, tu te pointes et tu viens nous voir bosser. Et là, tu vas te dire, putain, la vache, ils savent bosser.
Ça peut être marrant, ça.
C'est vrai que Doro est un peu le moteur dans le boulot. C'est Doro qui cherche, tu vois, et tu contactes les festivals en disant voilà, nous on vous propose Cuisine du Monde et tout. Sauf que, bah voilà, les festivals, souvent, ils ont déjà, en fait, leur marchand de casse-balles. Et c'est dur. Alors, s'il y en a un qui se désiste, bah tu vas arriver à avoir la place. Ce qui est dommage, c'est que moi, depuis le temps que je fais ça, je devrais avoir plein de places. Mais... Non, parce qu'avant, je voulais pas payer. Ça me faisait chier. Non, mais c'est vrai, je veux dire, ils te demandent des sommes, des grosses sommes pour venir bosser. Tu sais jamais si tu vas bosser. Quand on a fait le Roi Arthur, je veux dire, ils ont annulé une journée. Et ben, je veux dire, voilà, toi tu l'as dans le baba, t'as payé ton emplacement, t'as payé ta marchandise, le personnel, et puis ben, une journée en moins, je veux dire, on a été bossé juste pour rembourser les frais, quoi. Et donc nous, en fait, on dépend vachement du temps, quoi, de partout où on va bosser. Alors après, s'il fait beau, si tout va bien, t'es content. Voilà, ça c'est le stand, tu vois, par exemple, quand on bosse à Beauregard. Et là, à Beauregard, en fait, il avait tellement plu qu'on avait été obligé de mettre de la paille devant le stand, t'imagines ? En fait, on a un camion comme ça, je sais pas si tu vois. Et le stand ici, tu vois, et on fait Cuisine du Monde, on fait soit des grosses tagines géantes, des poêlées.
Alors du coup, c'est quel rapport avec les clients et les festivaliers ?
Au début, tu peux avoir un rapport vachement cool. Et plus tu vas vers le tard... Les gens ont picolé, et là, le plus dur, c'est... Toi, tu fais des grandes poêlées, tu vois, de viande. Donc, on a marocain, mexicain, indien, tu vois, donc avec des légumes, des épices. Et le festivalier va arriver, va dire, « Un américain, s'il vous plaît !»
Et là, pizza aux champignons.
Énerve, tu vois, tu dis, on en fait de l'américain, mais, ouais. Mais voilà, c'est du sandwich basique, du steak et des frites, tu vois. Alors que toi, tu fais des petits trucs un peu plus élaborés avec des légumes. Le festivalier, c'est l'américain, américain, américain.
Franchement,
et on se chamaille entre nous, tu vois, on est plusieurs à bosser. Et du style, tu vois ce que je veux dire, c'est... Quelqu'un vient, bonjour, je voudrais un américain. Tu lui sers un américain, steak, des petits légumes, machin. Mais le mec qui arrive en disant je voudrais 8 américains, et ben nous en tant que vendeurs, ça nous énerve. Tu dis putain, j'en ai 8 à faire. Alors que c'est débile si t'as 8 personnes qui arrivent, mais je sais pas. Donc des fois, on est là en train de bosser et tout, d'un seul coup t'entends bah tiens, Delphine est à côté et le mec il arrive 8 américains. Toi t'es mort de rire, tu dis ah, c'est elle qui a eu la grosse commande. Et toi, oui, qu'est-ce que vous prendrez, un américain ou un machin?
Horrible,
et toi tu la vois faire, c'est 8
américains, c'est caché.
Et non mais
salade tomate oignon.
Et ce qui est hallucinant,
et
c'est
avec des frites ou pas. Tu manges, tu sais. Tu dis,
c'est une petite.
Et peut-être bien qu'il y en a d'autres qui aiment pas la salade. Peut-être qu'il y en a d'autres. Non, moi, avec de la tomate, hein, mais pas d'oignon. Hein.
Je peux avoir des patates dans une assiette à côté.
Pour les patates, il y aura un supplément.
Oh.
Et si tu me faisais une petite assiette de patates?
Ça marche. Veux-tu du fromage sur tes patates?
Merci, Conque. Du gruyère, ça fera l'affaire.
Patate au gruyère, c'est parti.
Patate, oui, fromage, non.
Sans fromage.
Non, je veux du fromage.
Avec fromage.
J'aime pas le fromage.
Sans fromage.
Avec fromage.
Mais bon, alors avec ou sans fromage?
D'accord. Tout bien réfléchi. Fais-moi une salade de pommes de terre.
En tout cas, elle a bien retenu. C'est ça qui est cool. Hein. En règle générale, je bosse qu'avec des nanas parce que je trouve ça cool, tu sais. Je devrais peut-être pas le dire en micro, mais les nanas, au moins, t'as pas besoin de leur dire ce qu'il faut faire. Elles savent déjà, tu vois. Je vais pas me faire que des copains, hein. Les mecs ils vont dire mais putain mais lui il est dingue de dire ça. Non, les femmes savent travailler, elles sont gentilles, casse-couilles des fois mais gentilles quand même. Mon fiston est déjà venu bosser avec moi, pas sur les festivals parce que c'est long tu vois mais... Feu d'artifice, concours de feu d'artifice par exemple. Et il s'est retrouvé malade le soir à vomir, mais pourquoi? Parce que bah, en fait... entre stand, tu vois, ah bah tiens, c'est le fils de à côté, l'autre il vendait des crêpes et vas-y, le fiston, je te fais une crêpe, deux crêpes, trois crêpes, puis. Le soir, je le récupère. Mais par contre, ce qui est hallucinant, c'est que le fiston, alors lui, il adore, lui, il est demandeur, papa, moi je veux aller bosser avec toi et tout. Mais ouais, il est trop petit, j'ai pas droit de le faire bosser. Et ma fille, qui a bientôt 18, elle vient des fois bosser avec moi. Mais elle a horreur de vendre, donc elle fait la préparation. Sandwich froid, jambon et tout. Alors que lui, il est plus en avant à vouloir vendre, tu vois. C'est hallucinant, les deux gamins, c'est pas du tout la même. Ouais, ça fait plaisir que vous soyez là avec nous, les gars. Bon, par contre, ils sont pas toujours à l'heure, hein, les gars, mais... Ça sent un petit peu le liège. Je crois que c'est du vin. Un petit... attendez, on va vous dire quand même. Un petit plan de Dieu. C'est un Côte du Rhône.
Ce n'est pas un juron. Hein.
Non. Avant, on faisait même le jour de l'an à Paris. Moi, j'ai fait l'an 2000 à Paris. C'était le délire, tu vois. Des milliers de personnes sous la Tour Eiffel. Moi, j'ai plein d'anecdotes comme ça. J'ai fait la mort de Mitterrand, tu vois.
Alors, ça rapporte, la mort
de
Mitterrand.
Ouais, complètement. J'ai un pote qui a fait même plus de sous parce que lui, il vendait des roses, tu vois. Moi, c'était des sandwichs, mais des roses. Mais voilà, il y a plein de trucs comme ça, tu vois. La mort de Johnny, moi, je l'attends avec impatience, tu vois, parce que la mort de Johnny va me rendre riche. Non, mais c'est vrai. Et encore, tu vois, ce que je voudrais faire, et je ne l'ai pas encore fait, mais c'est préparer des t-shirts avec Adieu Johnny, tu vois, tu mets pas la date, tu mets juste Adieu Johnny. Ça va être des milliers de personnes et tu arrives avec tes t-shirts Adieu Johnny, mais ils vont se les arracher, tu vois, c'est sûr.
En fait, t'es un peu un spéculateur, finalement.
Ouais, non, je suis un feignant, donc un feignant, il cherche toujours à moins travailler possible. Donc voilà, Johnny, dépêche-toi de mourir.
C'est comment travailler ? Parce que je connais le mot, mais j'ai un copain qui fait ça, mais je sais pas quand...
On arrive à la fin, il reste plein de trucs et on dit... les mecs, ils veulent acheter, tu vois. On dit non, c'est bon, servez-vous, on vous le donne. Et souvent, les mecs, vous donnez ? Ah ouais, on donne. Mais par contre, tu te sers, hein. Tiens, voilà la pince et tout, le pain... Et tu les vois, ils servent, c'est bien, à la limite, tu sais, ça fait... ils t'aident à remballer, puisque, tu sais, il reste de la viande dans les poêles et tout. Et la voisine ici présente, quand il y en a qui font ça, tu vois, elle leur demande, « Ouais, mais d'accord, on te donne, mais alors tu vas nous raconter une histoire drôle. » Et là où elle a été plus méchante, c'est qu'elle a dit au mec, « Alors déjà, tu vas me le demander, le sandwich, en anglais, et bien dit en plus. » Tu sais, le mec était là... Il commençait à demander à ses potes comment on dit en anglais. Il a dit non, toi, hein. Et tu te rappelles, le gars...
Au début, il était un peu casse-plotte. Donc il a dit, bah, dis non, toi, mon homme. Si, il était casse-plotte.
Un dialecte local, sans doute.
C'est le dialecte de la Boëxière. Oui, il était casse-bloc.
Casse-plotte.
Ah bon, bah, c'est pas grave. Allez, coupe-moi ça.
Faudra que tu mettes en lien un morceau qui est vraiment l'hymne.
Ah oui, bon,
oui, parce qu'en plus, on arrive à danser, mais 15 fois de suite. On se le met en boucle et on a toujours autant de plaisir à le redanser. Et...
C'est comme un preneur de son, en fait, qui a fait déjà peut-être un...
Plein de pays.
Et donc, par exemple, il a mis, tu vois, bon, là, on va mettre une chanson de Bob Marley et des joueurs de musique dans la rue, tu vois, le mec, il vient, il met le casque, il dit, tiens, est-ce que tu peux me le faire, mais à ta façon, à toi. Donc, le mec, hop, il joue, après, il va, alors, je sais pas, je veux dire, en Espagne, au Portugal, vraiment partout. Et le mec, d'un seul coup, il fait un montage de tout ça, et franchement, ça donne. Vous avez jamais entendu ça ? C'est génial, franchement.
Oh, I
marabaya, nanu yeduko ni moduluko baya.
Alors, il a une drôle de tête le soir, un rime. Ou celle-là. Elles sont mieux. Ils vont entendre, tu sais, à la radio, mais pourquoi ils rigolent? Bah, le gars, il a changé de look.
Comment te décrirais-tu?
Bah, avec, en fait, je sors de chez le dentiste. Il m'a fait un drôle de truc. J'y suis allé pour une carie et le gars m'a dit, vous inquiétez pas, je vais vous relooker. Je suis ressorti, ma femme m'a pas reconnu. Non mais t'imagines les dents, eh, tiens, en parlant de ces dents, ce genre de dents, tu vois.
Parce que qu'est-ce que c'est?
Bah c'est des fausses dents en fait, nous on bosse sur le carnaval de Dunkerque, tu vois, et c'est là qu'on a connu ça, ils ont des déguisements, et c'est là qu'on a connu ces fameuses fausses dents, et quand on se barre en voyage, en Afrique entre autres, tu vois, les flics et tout, tu vois, tu leur dis, oh j'ai mal aux dents et tout, et tu sais, ils ont super peur, là-bas ils font, allez-y, tu vois, mais franchement, c'est vrai, en voyage, ça c'est génial.
Alors tu te sers de faux dentiers avec des fausses dents en or, voilà. Pour voyager peinard.
Pour voyager peinard, avec la marée chaussée. Les toutes premières que j'avais, pareil, c'était une grosse dent en or. On était avec Doro à Paris, tu vois, style au resto. T'avais un petit couple qui était juste derrière. Et moi, j'avais foutu mes dents. Et donc, il y avait le gars avec sa nana. Tu vois, et il regardait, il devait se dire, mais comment elle peut faire pour être avec un mec aussi horrible? Parce qu'il était pire que ça. Hein, j'avais une grosse dent et tout. Et je disais, bisous, bisous. Tu sais, Doro me faisait un bisou. Et tu voyais, eux, direct, ils avaient arrêté de parler. Ils se sont dit, mais c'est quoi cette barge-là, tu vois? Puis il la voyait, tu sais, de se dire, mais comment elle fait pour être avec un malade pareil? Déjà qu'on a déjà 19 ans d'écart, enfin, mais avec les dents, c'est pire. Hein. Les gens, ça les fait flipper. Hein.
Ça peut faire des capsuleurs aussi.
En plus, tu vois. Mais donc, qu'est-ce que vous pensez de mes belles dents?
Un bel objet.
C'est des grands enfants, les mecs. Moi je m'amuse avec eux. Sincèrement, hein, moi, en deux secondes, je deviens flic en Afrique. Hein. Je vais voir les flics, je dis, ouais, voilà, le mec, il me contrôle. Je lui dis, non, mais je dis, bah attends, je fais partie de la maison, tu vas pas me contrôler. Comment ça, là, vraiment? Je dis, mais attends, je suis inspecteur en France. Alors le mec, il dit, bah, t'as ta carte? Je dis, non, mais attends, chef, toi, quand tu vas en vacances en France, tu y vas pas avec ta carte, tu la laisses chez toi, tu vas en voyage. Ah, vraiment, là, oui. Et là, le mec, vraiment, hein, je te dis, c'est un flic, il prend comme ça. Il prend pour un flic, tu vois. Et toi, alors qu'il t'arrêtait pour essayer de te verbaliser, et toi, tu lui dis, mais toi, tu vas-y, je fais partie de la maison. Et je te dis, c'est des grands enfants, en fait, ils sont hyper, tu as les dents, tu vois. Mais en Afrique, moi, j'ai déjà été, je te dis, nous les premiers voyages qu'on faisait, c'était dans les années 80. On faisait donc, l'Espagne, un petit bout du Maroc, on traversait l'Algérie, le désert, on arrivait au Niger. Et là, à chaque post-contrôle, ils disaient, bah, le boulot, qu'est-ce que vous faites? Moi, j'ai déjà été, pilote d'essai. J'étais pilote de fusée. Et là, t'es en train de discuter avec des flics ou, tu vois, des douaniers. Et le mec, qu'est-ce que vous faites comme travail, tu vois? Je te dis, un jour, j'étais prof, un jour, une fois, il y avait une copine, on lui dit, elle est pipeuse. Pipeuse? Alors, le mec, il dit, pipeuse? On dit, bah oui, vous connaissez la pipe? Le mec, là, il te regarde. Oui, en fait, elle fabrique des pipes. Ah, pipeuse, tu vois, mais voilà, mais moi, nous, on sortait des trucs, l'autre, médecin, et en Afrique, vraiment, tu peux peut être, je veux dire, tous les métiers du monde. Les mecs, ils vont dire, ah ouais, ouais, tu sais, parce que tu... Je veux dire, tu n'as pas de carte, tu ne présentes pas une carte, tu es pilote. Le mec, il ne va pas te demander, tu n'es pas là à vouloir conduire un avion, tu dis, je suis pilote, pilote de ligne. Ah non, mais... En fait, la Pologne...
La Belgique, beaucoup, hein.
Ouais, la Belgique, Pologne, Allemagne. Après, en allant plus loin, on a fait le Canada, on a fait l'Afrique noire, pas mal de pays, Afrique de l'Ouest. La Réunion, le Vietnam, le Cambodge, Hong Kong. On est parti en Afrique. Le gamin qui est là, il avait 3-4 ans, là, avec un camping-car. On a traversé le désert mauritanien avec un pote plus un pote de lac. Et là, on arrive à un rond-point, musique attaquée, tu vois. On fait 2-3 fois le tour du rond-point, chant, style « Ah, c'est la fête !» On repart et là les flics ils nous arrêtent. Permis. Moi c'est l'Afrique, tu vois, voilà, permis. Et le mec vous viendra te chercher au commissariat. Tu dis pfff. Et là le pote Black il descend avec lui pour parlementer. Moi je me barre avec l'autre pote, je dis bon bah viens, nous on va boire des coups et tout, on s'achète des clopes, on sait jamais s'ils nous gardent, mais en délirant, tu vois. Et puis d'un seul coup, on le voit revenir le pote en bagnole avec les flics. En fait, ils nous cherchaient, tu vois. Et donc nous on sort du bar. Nous voulons partir à la gendarmerie, qu'est-ce qui se passe et tout. Et là, vas-y, banzai. Ils étaient en train de taper notre pote Black. Nous, on se met à gueuler, ils nous mettent les menottes. Hop, ils nous enferment. Allez, hop, à Oussouille. Oussouille, c'est en fait la prison de là-bas, tu vois. Putain, mais qu'est-ce qu'ils nous font? Ça va pas, c'est juste pour un délire et tout. Bon, bref, on gueule et tout. Là, ils avaient chopé, pareil, un mec qui était cherché par Interpol parce qu'il faisait du trafic de tableaux. Et nous, on le voyait, lui, il se faisait livrer des bons plats, tu vois, par la, en fait, l'hôtel du coin. Il se faisait... Et nous, tu sais, on était là, le mec, il avait pas faim, il nous donne ses plats avec la bouteille de vin, on commence, moi, attends, t'as le commandant qui arrive, mais qu'est-ce que c'est que ça, vous les laissez boire, ils sont déjà là pour dégrisement et tout. Et là, il y avait le, comment on appelle ça, le procureur qui arrive, nous, je te dis, on gueulait, mais ça va pas, machin. L'autre, il nous regarde, il dit, et hop, Oussouille. Et nous on dit c'est quoi Oussouille? Et en fait c'était la prison, tu vois. On dit oh là là. Et heureusement sur place on avait un pote qui vendait, qui louait des 4x4, qui a été parlementé toute la nuit avec le commandant. Mais c'est des jeunes, ils sont cool, nanana. Et le matin en fait le mec nous a lâchés. Mais style voilà, on était dans une pièce, tu sais la fenêtre a été ouverte, style on t'enferme mais... Voilà, t'es dans une pièce, alors t'as un mec qui est là et qui a un famas, on dit, tu sais. Tu sais, et puis t'as la fenêtre ouverte, tu vois. Moi, au bout d'un moment, je dis, mais ils me font chier avec leurs conneries, là. Genre, le mec, il me dit, qu'est-ce que vous faites? Je dis, non, mais attends, ça va, vos conneries, là. Moi, j'ai rien fait. Je dis, mon camping-car, il est là. Ok, je me barre pas, mais je dors dans mon camping-car, je dors pas dans votre pièce pourrie. Non, non. Et le mec, il est là avec son flingue. Non, non, parce qu'après, moi, je vais me faire engueuler et tout. Je dis, ouais, mais attends, vas-y, moi, putain, je dis, bah tant pis, je vais au moins chercher le matelas qu'il y a dans le camping-car. Donc j'ai ramené le matelas, voilà, on a dormi là, et je te dis, la nuit, l'autre, il a été palabré, et le lendemain, il a été relâché. Mais tu vois le délire, c'est l'Afrique. La fenêtre, elle est ouverte, t'es en prison. Tu peux te barrer, si tu veux, tu te barres, tu vois. Et tu dis, ouais, c'est l'Afrique.
On ne part pas en Afrique comme ça, c'est pas un voyage qui s'improvise. Tu sais que l'Afrique est un pays extrêmement dangereux, t'as pensé à toutes les maladies? Hein? La malaria.
Vacciné.
La fièvre, bonjour.
Vacciné.
Le choléra.
Vacciné.
Le paludisme. Non, tu vois, il n'y a pas de vaccin pour le paludisme. L'abcès aux paupières. Hein, souviens-toi de Jean-Claude, ça n'a plus jamais été de ma vie. Non.
Autant, tu vois, je me suis retrouvé en Afrique dans des endroits complètement loufoques. J'ai jamais eu peur. Vraiment. Il n'y a qu'une seule fois, c'est mon premier voyage que j'ai fait en 88 pour partir en Afrique noire, au Maroc. On s'est retrouvé dans une piole d'hôtel où le mec il voulait nous dépouiller, ça finit en baston, enfin le truc, ouais, c'est la seule galère que j'ai eue qui s'est quand même finalement bien fini parce que bah voilà, c'est le patron de l'hôtel qui a mis sur la gueule du mec qui voulait nous dépouiller, nous on a réussi à se barrer, nous on n'a pas reçu de coup, on n'en a pas donné. Mais sinon dans tous les voyages que j'ai fait depuis 88, on voyage presque tous les ans. Je te dis, j'ai même voyagé avec mon fils. Jamais de galère, jamais.
Et alors, après vous, qui est-ce qu'on va aller voir?
Alors, en fait, on a une certaine personne qui a passé un peu la soirée ici, mais vous ne l'avez pas entendu. C'est en fait, on appelle ça la voisine dingue. À la Bruxière, c'est la voisine dingue. Elle s'appelle Delphine. Vous verrez, c'est du lourd.
Pourquoi faut qu'on aille la voir?
Parce que c'est, je te dis, nous on l'appelle la dingue, en fait, parce que c'est une fêtarde, c'est une 35 piges, je veux dire, qui vit toute seule, mais qui a la joie de vivre, qui est rigolarde, c'est quelqu'un d'agréable. Allez la voir et on en reparlera après, mais vous comprendrez.
Le sixième épisode des Amis de mes amis touche à sa fin. Merci Doro, merci Fred pour le vent d'air frais que vous faites souffler tout autour de vous, pour votre joie de vivre et votre générosité. Merci également pour l'enthousiasme que vous avez eu à participer à cette expérience radiophonique. Que vous soyez auditeur régulier ou de passage, ponctuel ou retardataire, bienveillant ou sceptique, vous pourrez réécouter et podcaster cette émission sur le site de Radio Campus Rennes, dans la rubrique Les Amis de mes amis, en attendant la performance de Delphine dans 15 jours, le 23 mars exactement.